Parole publique. L'interview de Grégoire Barbet.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Parole publique. Je suis ce soir en compagnie de Béatrice Hirsch, candidate au Conseil des États et ancienne présidente du Parti démocrate chrétien Genevois. Bonsoir Béatrice Hirsch.
Bonsoir Monsieur Barbet.
Vous êtes professionnelle de la santé, vous êtes infirmière de profession et nous avons appris aujourd'hui que l'initiative qui propose le consentement présumé du don d'organes, qui a été la récolte de signatures a abouti aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que professionnelle?
C'est quelque chose qui est préconisé depuis un bon moment. On pense, il est dit que les pays qui ont un beau taux de transplantation, c'est des pays qui ont ce système de consentement présumé. J'ai tendance à penser qu'on manque de chiffres aujourd'hui en Suisse. On ferait bien de savoir, peut-être, avant d'imaginer ce consentement présumé, de savoir combien de personnes refusent et combien de personnes, simplement, on n'a pas pu demander. C'est très, très difficile de demander à une famille qui vient de perdre un proche s'ils sont d'accord qu'on prélève les organes. Cela étant, même le consentement présumé, je ne suis pas certaine que si la famille ne s'oppose pas, que si la famille s'oppose et que la personne n'a rien laissé comme carte ou comme déclaration, je crois que si la famille s'oppose, on ne pourra quand même pas les forcer. Et donc, ça reste sur la difficulté, ça reste le fait de demander. Et je pense qu'on ferait mieux de promouvoir, de former surtout les médecins des urgences et les médecins des soins intensifs. Vraiment, c'est très, très difficile de demander ces organes. Il faudrait les former correctement pour leur apprendre à accompagner ces familles lors d'un décès qui est forcément un décès brutal, etc., très difficile. Après, c'est pratique, ça amènera la discussion, cette initiative. Il faudra que le Parlement l'étudie, etc. Et ça permettra de parler du sujet. Mais à titre personnel, je pense que je préférerais qu'on forme mieux les gens pour pouvoir demander plutôt que de partir du principe que les gens veulent donner leurs organes.
Et vous parlez des statistiques, c'est intéressant ça. Donc ça, c'est plutôt au niveau cantonal qu'il faut aller les chercher, j'imagine, dans les hôpitaux publics.
Alors, c'est dans les hôpitaux vraisemblablement, bien sûr dans les hôpitaux publics, vraisemblablement dans les grands centres et les hôpitaux universitaires, parce que c'est quand même là que sont concentrées ces personnes. Je pense pas honnêtement qu'il y ait de statistiques qui sachent à combien de personnes on aurait pu demander le don d'organes et à qui on n'a pas demandé pour multiples raisons, parce qu'on n'a pas osé, parce que il n'y a pas eu le temps, parce que etc. Je n'ai aucune idée de ça.
Bah, c'est intéressant, je pense que je vais me poser la question et puis je vais aller voir si on trouve des statistiques, ça pourrait être intéressant. Et puis on va revenir un peu plus prosaïquement sur votre parti. Le PDC a récemment débattu en interne de sa stratégie pour les élections fédérales, a remis en question potentiellement l'alliance historique depuis 80 ans avec le Parti libéral radical. Et finalement, à une assez courte majorité, les délégués ont décidé de maintenir cette alliance. Vous, à titre personnel, Béatrice Hirsch, vous étiez pour cette nouvelle alliance au centre ou vous étiez favorable au statu quo?
Alors, tout d'abord, peut-être juste deux choses par rapport à ce que vous avez dit. C'est certes une toute petite différence, mais ça reste que c'est de l'apparentement qui avait été remis en question. C'est une question d'additionner les listes et des calculs électoraux. L'alliance, alors bien entendu, si on ne s'apparente pas, on estime qu'on est en train de rompre l'alliance. J'ose espérer, à titre personnel, que l'entente, c'est plus que juste un apparentement de liste. Et que ça a quand même permis de rediscuter et de savoir c'est quoi l'entente. Et puis, l'autre chose sur laquelle j'aimerais revenir avant de vous donner ma position personnelle, c'est l'apparentement de 80 ans. Oui. Pendant 80 ans, enfin plus exactement pendant jusqu'en 2013, on était apparenté au Parti radical et au Parti libéral. Et c'était en gros un quart le PDC, un quart les radicaux et puis la moitié des libéraux, en tout cas les 20 dernières années de cette alliance. Aujourd'hui, c'est absolument pas ça. Aujourd'hui, c'est trois quarts le PLR et un quart le Parti démocrate chrétien. Et donc, c'est très, très difficile d'exister quand on est aussi petit par rapport à un aussi grand. Et c'est vrai que les rapports sont parfois tendus et que cette alliance au centre, c'est d'autant plus qu'on est sur un discours d'élection fédérale et que du point de vue fédéral, sur la scène fédérale, le PDC est très proche des Verts libéraux du PPD. Et donc, il y avait une certaine logique à créer ce grand centre. Le président national, Gerhard Pfister, avait, lui, fait un discours en entrée d'Assemblée des délégués pour encourager au plan fédéral cette création d'un centre fort. Ce qui est vrai, c'est que sur le plan cantonal, c'est une alliance et un apparentement qui est historiquement très fort.
Et puis aussi ici, il y a peu de le centre, enfin les partis verts libéraux et partis bourgeois démocrates sont pas très, on va dire, sont pas très vivants ici. Ils sont assez faibles d'ailleurs. Ils n'ont pas de députés, ils ont un parti qui est plutôt faiblement représenté. C'est compliqué de créer une alliance comme ça.
Tout à fait. C'est des partis qui sont extrêmement faibles. Bon, aussi à Genève, parce qu'on a un quorum qui est assez important. Hein, on a un quorum à 7% pour avoir des députés. C'est pas une raison en termes de sensibilité politique. Je pense que les gens aujourd'hui, surtout avec le tournant climatique, hein, il y en a beaucoup qui veulent voter vert. Ils ne veulent pas nécessairement voter vert à gauche. On va peut-être être étonné qu'en fait, la population, une partie de la population va quand même avoir envie de voter pour des partis qui prônent très fort la protection de l'environnement, la préservation des ressources, mais pas forcément avec le côté très à gauche qu'ont les Verts.
Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec le PLR, vous pensez ? C'est plus compliqué.
Alors, je pense que c'est plus difficile, d'autant plus sur une scène, sur un discours fédéral. Mm-hmm. Parce que malgré tout, le PLR aura des thèmes. Alors, Petra Gössi, sur le plan fédéral, a lancé cette consultation. Et puis, on va attendre de voir les retours des militants du PLR. Mais c'est difficile de savoir, sur le plan fédéral, ce que ça va donner. Le PLR à Genève, je pense, est plus sensible à l'environnement que ce qu'est le PLR sur le plan fédéral. Sur le plan fédéral aussi, il faut imaginer qu'on sort d'une législature de 4 ans où au Conseil national, le PLR, avec l'UDC, avait une majorité. Et donc, était beaucoup moins enclin à faire des alliances avec le centre, que ce soit le PDC, que ce soit les Verts libéraux.
Vous anticipez sur la question que je voulais vous poser par rapport justement à la ligne du PLR au niveau fédéral. C'est la bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDC peut se retrouver sur les alliances que fait le PLR régulièrement avec l'UDC, qui a quand même passablement durci sa ligne depuis ces 4 dernières années?
Non, sur le plan fédéral, non. Et si on a fait l'alliance, cette fois-ci, si on a fait l'alliance avec le PLR, c'est à Genève pour représenter, pour le Conseil des États notamment, pour représenter Genève, que la droite représente Genève au Conseil des États, pour apparenter et récupérer les restes de l'un et de l'autre au niveau de l'élection au Conseil national. Mais une fois à Berne, la députation PDC, non, elle ne peut pas, à part sur des projets bien particuliers, mais elle ne peut pas faire alliance avec le PLR. J'espère juste qu'au sortir des élections cet automne, on aura quand même un recentrage de la députation, au moins éviter que le PLR plus UDC fasse une majorité nette au Conseil national. Cela étant, je vais peut-être quand même répondre à votre question parce que j'aime bien, règle générale, j'aime bien répondre aux questions qu'on pose, ou si je ne veux pas répondre, je dis que je ne réponds pas. Et donc, pour ma part, j'avais bien dit que d'abord, ma position comme candidate au Conseil des États ne devait absolument pas influencer sur une décision d'apparentement pour le Conseil national. Le PLR avait été très clair, c'était tout ou rien. Il ne pouvait pas y avoir une équipe PLR-PDC au Conseil des États et pas d'apparentement de liste au Conseil national. Mais moi, j'avais dit que je ne voulais pas que ma position comme candidate au Conseil des États empêche la vraie question autour de l'apparentement au centre. Je pense que ça aurait été assez osé et que c'était une politique à long terme et que c'était quelque chose qui était une vraie chance pour le PDC au niveau du Conseil national de... J'ai envie de dire d'être seul mais libre. Et ça fait déjà longtemps. Enfin, quiconque suit la politique depuis, ça fait 15 ans pour ma part que je suis au PDC et c'est quelque chose qui revient très régulièrement.
Y compris du côté des libéraux radicaux. Cette alliance fait débat aussi chez eux.
Alors, cette alliance fait débat chez eux, c'est sûr. Au niveau de la députation, c'est pas toujours simple. Mmh. C'est dommage que chez eux, il n'ait pas eu ce débat-là parce que, en l'occurrence, c'est quelque chose qui n'a pas été voté au moment de la liste. C'est quelque chose qui est décidé au niveau du comité directeur chez eux et non pas de l'Assemblée des délégués. Cela dit, la réponse de l'Assemblée des délégués est non, on ne veut pas. On n'a pas envie de mettre en péril cette entente. Le couple fonctionne bien avec ses hauts et ses bas, j'ai envie de dire, comme beaucoup de couples. Mais l'Assemblée des délégués, même si c'est une courte majorité, a dit on va continuer comme ça. Et pour ma part, ça me conviendra très bien avec Huguit Pold. J'ai aucune crainte de proximité avec la droite dure. Mmh. Hugues est quelqu'un qui est beaucoup quand même assez centriste.
C'est un ex-radical aussi, on peut le préciser.
Absolument, c'est un ancien radical. Et de ce côté-là, ce team au Conseil des États a vraiment toute sa valeur ensemble.
Mais vous ne pensez pas justement que ces remises en question vont laisser des traces au niveau de la symbiose entre le PLR et le PDC pour cette campagne ?
Alors, qu'il y ait certains qui nous en veulent d'avoir posé la question, c'est pas impossible. Dans toutes les remises en question, ça existe. Je pense quand même que là, pour le PLR, il y a eu un vrai soulagement parce qu'ils n'avaient pas envie hein, qu'on rompe cette alliance. Ils n'avaient pas envie qu'on ne fasse pas l'apparentement parce qu'ils estiment qu'ils ont aussi quelque chose à gagner en restant alliés avec nous au niveau cantonal du Grand Conseil, mais certainement au niveau national. Au niveau national, du point de vue addition des voix, l'apparentement avec le PDC pour le PLR est un gain de plus et un peu une garantie pour leur troisième siège. Il ne faut pas le nier. Ça évite qu'on perde des voix.
Parce que là, actuellement, ils ont, si je ne me trompe pas, ils ont deux sièges. Ils ont Christian Luchaire et Hugues Paul au Conseil national. Et Benoît Jeunecamp, pardon. Oui.
Ils ont trois sièges. Ravi le siège juste à l'arrache.
Oui, c'est juste. C'est mauvaise mémoire. Mais ils ont aussi il y a aussi une opportunité de récupérer un siège supplémentaire au Conseil national avec la redistribution des répartitions entre les cantons au niveau national à Genève.
Pour l'entente ?
Alors, je ne sais pas pour l'entente, mais au niveau Genevois, en tout cas, il y a un siège de plus.
Alors, il y aura un siège de plus. L'entente, honnêtement, le PDC, on est très très loin du deuxième siège, même si on a très envie d'avoir ce deuxième siège, on est loin, il va falloir bagarrer ferme. Et le PLR, eux, s'ils maintiennent leurs trois sièges, ça sera leur objectif.
Compte tenu de ce qui s'est passé récemment, oui.
Absolument. Mmh. Oui, et en plus, j'entends le fait qu'ils l'avaient eu à la dernière minute. Hein, ils l'avaient attrapé tout à la fin de la soirée sur les socialistes avec quelques suffrages d'écart. Donc garder leurs trois sièges, pour eux, ça sera bien.
Effectivement. Et justement, cette campagne au Conseil des États, celle de Lisa Mazzone et Carlos Amaruga a déjà commencé. Donc Carlos Amaruga est du Parti Socialiste et Lisa Mazzone est des Verts. Vous, avec Hugues Paul, elle n'a pas encore commencé officiellement, si on peut dire. Vous avez déjà votre site internet, vous parlez déjà de votre campagne. Quand est-ce qu'elle va démarrer à peu près, votre campagne, vous savez ?
Alors, vraisemblablement, on va la lancer d'ici la fin du mois de mai, avant la prochaine session au fédéral, pour beaucoup de raisons qui tiennent à la politique genevoise, on n'a pas pu réellement faire ça avant, ce d'autant plus après qu'il y a eu la discussion au niveau du PDC autour de l'apparentement. Donc cette campagne, elle va être lancée quelque part au mois de mai, fin mai probablement.
D'accord. Et justement, beaucoup de médias font de cette élection une non-élection et disent que le ticket rose-vert va être réélu sur un siège. Est-ce que ça vous agace ? Est-ce que ça vous motive plus ? Qu'est-ce que ça vous fait d'être déjà donnée perdante avant même d'avoir mené la campagne ?
Alors, ça, en tout cas, à votre question, si ça m'agace, non, ça m'agace pas. Ça me fait sourire. J'aime bien. Alors, dans le team avec Hugues Paul est déjà conseiller national et donc il est déjà beaucoup plus connu que moi. Moi, je suis clairement là sur les quatre. C'est la plus outsider. C'est une position qui est plutôt agréable. Ça me permet d'être assez libre dans ce que je dis et de plutôt surprendre. Mais le fait de donner le ticket rose-vert gagnant simplement sous prétexte que les deux précédents conseillers aux États pendant 12 ans étaient issus des deux mêmes partis.
Oui, ça fait depuis 2007 que la gauche a l'hégémonie au Conseil des États, oui.
Absolument.
À Genève.
C'était absolument. Mais il faut juste rappeler la personnalité des deux personnes qui y étaient. Robert Kramer est un Vert extrêmement centriste. Il a été élu par bien au-delà de la gauche. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tout le monde voterait pour la gauche sur le plan fédéral et puis seulement à un tiers pour la gauche sur le plan cantonal ? Ça tient bien aux personnalités. Et donc, l'élection au Conseil des États, c'est une élection personnalité. Liliane Maury-Pasquier, elle est socialiste, elle est centriste. C'est une femme qui est issue aussi des métiers de la santé et qui est extrêmement consensuelle dans ses débats. Elle sait aller chercher des majorités. Les deux, Robert Kramer et Liliane Maury-Pasquier, dans leur profil de gauche, étaient des positions de gauche assez, j'ai envie de dire, assez soft.
Et vous pensez que c'est pas le cas, justement,
Lisa
d'accord.
Mazzone et Carlos Amaruga. Non. Ils ont les deux adouci leur profil hein, récemment, expliqué que Lisa Mazzone s'est très bien expliqué qu'une fois qu'elle a posé ses exigences, après elle s'est négociée, peut-être, je ne l'ai pas assez pratiqué au niveau fédéral pour savoir ça, mais elle a des positions qui sont extrêmement tranchées.
Et vous l'avez pratiqué au niveau cantonal en tant que députée.
Tout à fait, en tant que députée, j'étais présidente juste avant, en fait, avec Émilie Flamand, et elle a repris la présidence des Verts juste après. Comme députée à l'époque, elle était toute jeune députée, il faut lui reconnaître, elle a très très bien mené son groupe, mené son parti, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement tranché, très à gauche sur les positions, y compris du rôle de l'État, y compris de la responsabilité sociale, y compris du côté syndical, c'est quelqu'un qui est très très à gauche.
Bien, merci Béatrice Hirsch, nous allons prendre une courte pause musicale, nous reviendrons dans 5 minutes.
Donc, la République, l'interview de Grégoire Barbet.
Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis ce soir en compagnie de Béatrice Hirsch, candidate démocrate chrétienne au Conseil des États, ancienne présidente du PDC à Genève. Et nous discutions pendant l'interlude musical de comment Lisa Mazzone avait pu bénéficier de sa position de présidente de parti pour sa première élection au Conseil national. Et je pose cette question à Béatrice Hirsch. Finalement, est-ce que on peut être à la fois président de parti et candidat à une élection?
Alors, je pense que ça dépend des élections. Je pense que l'élection au Grand Conseil, c'est très différent. C'est une élection cantonale. Le président du parti cantonal, quelque part, il tire la liste, il va apporter des voix. Je pense que ça peut être intéressant. Sur la campagne fédérale, c'est très différent. Sur la campagne fédérale, c'est très différent parce que il y a extrêmement peu de sièges. Mmh. Et donc, c'est usuellement un siège, éventuellement deux, trois maximum, qui sont en jeu. Et donc, la question n'est pas tellement d'être de la place de président, mais beaucoup plus de la tribune médiatique que ça donne. Et à mon avis, pendant la campagne, si le président est candidat, il devrait au moins se mettre en retrait et ne pas répondre aux sollicitations médiatiques en tant que président de parti, mais en tant que candidat. Mais en tant que président de parti, il devrait céder sa place.
Il devrait céder sa place, en tout cas, pendant la durée
de la campagne.
Donc c'est un message qu'on envoie à Nicolas Valder, président des Verts, qui est lui candidat aussi, et à votre président de parti, Vincent Maître.
À mon sens, il me semble, Vincent Maître oui. n'a pas présidé l'Assemblée des délégués sur qui a choisi la liste au Conseil national parce qu'il était candidat et il a d'ores et déjà dit qu'il se mettrait en retrait pendant la campagne et qu'il aurait la tribune médiatique du candidat, mais pas du président de parti systématiquement.
Très bien. Et au niveau de la campagne du Conseil des États, est-ce que c'est pour vous crédible un scénario où la droite récupérait un siège et la gauche n'en conserverait qu'un actuellement?
Alors honnêtement, je pense que si on prend les quatre que nous sommes, qui sont les quatre papables, que sont le socialiste, la verte, Hugues Paul PLR et moi-même PDC, je pense honnêtement que tout est ouvert. Tous les jeux sont ouverts. Oui, la droite peut récupérer un siège et oui, la gauche peut en garder un. Mais il faut imaginer que plus gauche-droite, c'est vraiment une question, c'est vraiment une question de personnes. C'est une élection de personnes. Et les gens qui vont voter, ils vont voter pour des personnes qu'ils auront vues. On est très, très peu. Il y a aucune élection où il y a aussi peu de papables pour de vrais. J'entends sur quatre d'avoir deux sièges pour quatre, c'est quand même, c'est la moitié. Et donc, les gens vont s'intéresser aux personnes.
Donc vous ne mettez même pas en balance aussi les candidats qui auront d'autres partis comme l'UDC ou même le MCG éventuellement s'ils lancent quelqu'un au Conseil des États?
Alors à mon sens, il n'y a aucune chance d'élection. Par contre, de venir un minimum titiller les résultats, bien sûr, bien sûr. L'extrême gauche va présenter, ils vont aller prendre des voix à Lisa Mazzone et à Carlos Maruga au même titre que l'UDC présente quelqu'un, si le MCG présente quelqu'un, vraisemblablement, ça viendra plutôt récupérer des voix à l'entente. Et donc, c'est probablement leur positionnement au deuxième tour qui peut un peu changer la donne. Mais il n'y a aucune chance à l'élection pour aucun de ceux-là.
Parce que finalement, vous, si je comprends bien, vous devez aller, en tant que démocrate chrétienne, vous devez plutôt aller chercher des voix au centre. Et Hugues Paul, en tant que PLR, devrait essayer potentiellement d'aller chercher des voix un peu sur sa droite, non?
Alors, Hugues Paul a plus de chances d'aller récupérer des voix sur sa droite que moi, ça c'est sûr. Moi, j'ai plus de chances d'aller récupérer au centre et à gauche, c'est sûr aussi. J'entends, ne serait-ce que déjà par nos milieux professionnels. Moi, je suis un professionnel de la santé, j'ai travaillé comme infirmière au lit du patient pendant 30 ans. Hugues Paul, il est chef d'entreprise, donc c'est assez naturellement que je vais aller chercher des voix un peu plus à gauche que lui, il va chercher des voix un peu plus à droite. Cela étant, Hugues Paul d'être aussi centriste. Donc je pense qu'on a les deux un potentiel électoral assez large et probablement nettement plus large que le potentiel électoral de la gauche en termes d'écart, en fait, d'où à où on va chercher nos voix.
Alors on le verra en octobre pour les élections fédérales si votre analyse est juste. Mais est-ce qu'il est bien raisonnable, justement, quand la droite se plaint de l'hégémonie de la gauche pendant 12 ans au Conseil des États, de présenter deux candidats pour récupérer potentiellement les deux sièges? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique de proposer, je pose cette question à tout hasard, mais de proposer une candidature et d'être à fond derrière elle?
Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante, hein, qu'on pourrait poser au niveau des exécutifs communaux qui sont entièrement à gauche ou entièrement à droite, qu'on pourrait...
En ville de Genève aussi, par exemple.
Absolument, avoir décidé d'avoir des répartitions autres. Pour ça, il faudrait changer la loi, parce que vous ne pouvez pas, d'un seul parti ou d'un seul tenant, j'ai envie de dire, jouer avec d'autres règles du jeu que les autres. S'il y avait un deal gauche-droite, chacun présente un, ben, en fait, les partis choisiraient les candidats, les conseillers aux États, et puis, en gros, la population n'aurait rien à choisir. Donc, j'ai envie de dire, la question, elle est légitime, mais dans notre système actuel, c'est évident que c'est logique de présenter deux candidats, de donner le choix à la population, ce d'autant plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, Huguette Poldemont, on est extrêmement complémentaires. On a, du point de vue positionnement politique, assez peu de différences, mais par contre, de qui on est extrêmement complémentaires.
C'est-à-dire, justement.
Il est chef d'entreprise, je suis employée et dans la santé. C'est un homme, je suis une femme. Il est aujourd'hui déjà élu
au Conseil national.
Conseil national, donc déjà élu à Berne. J'ai été longtemps députée, aujourd'hui je suis élue dans ma commune, donc beaucoup plus proximité, petite proximité. Ni l'un ni l'autre, et ça c'est plutôt semblable, ni l'un ni l'autre ne sommes des professionnels de la politique. On est assez monsieur et madame tout le monde, politiciens de milice, avec toute la difficulté que c'est pour jongler avec les emplois du temps. Mais ça fait de nous quelqu'un, des personnes assez proches des gens. Et donc, je pense, de ce sens-là, on donne un vrai choix à la population. D'avoir à choisir un des deux, et que les partis aient eu à choisir un des deux, je trouve que ça aurait été faire un choix que la population sera à même de faire.
Et pour revenir un peu sur votre profil à vous, Béatrice Hirsch, vous avez été députée, vous êtes actuellement adjointe au maire à la commune de Troisnais, sauf erreur.
Absolument.
Vous avez présidé le PDC, mais vous n'avez jamais siégé au Conseil national. Et très souvent, on dit que pour prétendre à la Chambre haute, au Sénat, au Conseil des États, il faut avoir une expérience à Berne pour pouvoir tisser un réseau, pour pouvoir tisser des compromis, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous trouvez faux comme analyse?
Alors, j'aime pas tellement dire c'est juste ou c'est faux. Par contre, ça me paraît pas insurmontable. C'est probablement un handicap parce que je ne connais pas bien les arcanes à Berne. Et on m'avait déjà dit ça à l'époque, quand en 2006, j'ai commencé au Grand Conseil, j'avais jamais eu de mandat communal, et on m'avait déjà dit de tomber tout d'un coup comme ça au Grand Conseil. Oui, ça fait qu'on cherche un peu plus son chemin au début, mais honnêtement, je pense que l'expérience vient rapidement, et que j'ai absolument pas l'impression que ça sera particulièrement difficile, plus difficile pour moi de me retrouver au Conseil des États que ça n'aurait pu être de me retrouver au Conseil national. Le Conseil des États, pour moi, représente vraiment ma manière de faire de la politique. C'est une politique beaucoup moins médiatisée, probablement, que le Conseil national, moins limitée aux partis, parce qu'on est représentant de son canton. Il s'agit d'aller chercher des majorités à Genève, c'est pas évident, hein. On est excentré, suisse romande minoritaire. Et le besoin d'aller chercher ces majorités-là et d'être consensuel, de travailler, même si c'est pas forcément très vu, c'est vraiment comme ça que j'aime faire la politique.
Donc pour vous, le rôle d'un conseiller aux États, c'est vraiment d'être l'ambassadeur de son canton? Ce n'est plus vraiment être le représentant de son parti uniquement?
Alors c'est clairement
c'est
être
plus
représentant
noble.
De son... Alors je vais pas forcément dire plus noble.
Enfin,
parce que
dans un sens où il y a moins de dogmes, peut-être.
Tout à fait. On peut plus s'éloigner de la ligne du parti. On a nécessairement un électorat beaucoup plus large, donc il s'agit aussi de représenter tous les électeurs et électrices du canton.
Oui, parce que je rappelle, c'est une majoritaire, hein, le Conseil
Absolument.
Des États. Ce qui n'est pas le cas au national.
Absolument, c'est une proportionnelle pour le Conseil national.
Tout à fait. Et justement, au niveau du Conseil des États, au niveau de la députation genevoise à Berne, on dit très souvent qu'elle a de la peine à communiquer avec les autorités genevoises, avec le Conseil d'État, pardon, pour justement travailler les dossiers qui doivent être défendus à Berne, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez entendu, vous aussi, que vous partagez cette analyse?
Alors, que j'ai entendu, oui, il semble que ça va mieux depuis qu'il y a des délégués, depuis 2013, je crois, sous la présidence de François Longchamp. Il y a des personnes qui sont déléguées du département présidentiel à Berne pour faire un peu de lobbying et qui collaborent extrêmement bien avec la députation. C'est quelque chose qui a commencé à se construire. Je pense qu'il faut que ça continue à se construire et que ça s'entretient parce que c'est vrai que c'est très, très facile. Hein. Chacun a énormément de travail à des préoccupations qui ne sont pas forcément les mêmes, et puis simplement, à un moment donné ou l'autre, on oublie de communiquer. Donc, je pense que c'est mieux que ce que ça a été, je pense que ce n'est pas encore parfait, et que ça ne le sera certainement jamais, parce que la perfection, ça n'existe pas, mais que par contre, c'est quelque chose vraiment à cultiver.
Et justement, quels sont pour vous les dossiers les plus importants que Genève doit défendre à Berne aujourd'hui ?
Alors, j'ai envie de dire, une des premières des choses vraiment, c'est les liens à l'Union européenne. On est aujourd'hui en plein dans les discussions sur l'accord institutionnel, c'est ce fameux accord cadre. Je pense qu'on doit signer maintenant cet accord cadre.
Vous êtes d'accord avec le contenu de l'accord cadre actuel ?
Alors, moi, je suis d'accord avec le contenu de l'accord cadre actuel dans le sens où je pense qu'on peut le signer comme ça et trouver des solutions à l'interne. Ce qui retient aujourd'hui, et on le voit bien dans les discussions, c'est vraiment des petits points et des points qui sont vraiment à la marge. Et c'est souvent les politiques eux-mêmes qui ont vraiment de la peine à passer ce cap. Si on parle à la diplomatie, oui, on va trouver des solutions à l'interne.
Mais la gauche, justement, elle, sur le sujet de l'accord cadre, elle a peur, en fait. Elle dénonce la faible protection des travailleurs, a peur que le règlement des différends avec l'Union européenne qui sera introduit dans cet accord cadre puisse favoriser, justement, la reprise d'acquis, finalement, européens qui vont être au désavantage des travailleurs suisses. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous trouvez juste actuellement?
Je pense que la peur est mauvaise conseillère et qu'à un moment donné, il faut nous faire confiance pour trouver des solutions. Par exemple, le délai d'annonce, la réduction du délai
d'annonce. De 8 jours, sauf erreur.
De 8 jours, week-end compris, à 4 week-ends non compris. Hein. Donc déjà, j'entends ça fait quand même pas une grande différence. Avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, on va plus vite. Et il s'agit de pouvoir réellement faire les choses rapidement. Je pense que ça, c'est pas insurmontable. Il faut oser et se faire confiance pour trouver à l'interne, en Suisse, de quoi maintenir une protection des travailleurs. La discrimination, on dit on peut pas autant surveiller ou surveiller plus les entreprises européennes que les entreprises suisses. Ben, il suffit de surveiller autant les entreprises suisses. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de ne pas surveiller de la même manière les entreprises européennes que les entreprises suisses. Pourquoi crier au loup ? Parce qu'on n'arrivera pas à surveiller tout le monde. Oui, il faudra engager du monde. Mais oui, ça vaut la peine. La protection des travailleurs sera à ce prix-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à tergiverser autour de cet accord institutionnel et surtout pas jouer à se faire peur.
Alors sur ces mots très clairs, nous allons reprendre une petite pause musicale. Nous reviendrons dans 5 minutes.
L'interview de Grégoire Barbet.
Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent et merci à celles et ceux qui continuent de nous écouter. Je suis ce soir en compagnie de Béatrice Hirsch, candidate démocrate chrétienne au Conseil des États et ancienne présidente du PDC Genevois. Béatrice Hirsch, nous discutions il y a quelques minutes de votre candidature au Conseil des États. J'aimerais vous poser une dernière question à propos de Genève. Dans un éditorial du Temps, le journal Le Temps, faisait une comparaison en fait entre Genève et Vaud et faisait de Genève finalement le lieu de tous les blocages et le canton de Vaud le lieu de la réussite et des compromis politiques. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Je pense que c'est un peu raccourci. Moi, j'habite pas dans le canton de Vaud et je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ça a été effectivement beaucoup de consensus. Je pense que le canton de Vaud a fonctionné avec un team Broulis-Maillard extrêmement fort. Et de l'avis, par exemple, des communes, un peu dictatorial de ce côté-là, pas très consensuel.
Dictatorial, donc le mot est lancé.
Pas très consensuel avec toutes les communes vaudoises. Cela étant, ça a marché très très bien du point de vue de la visibilité de ce qui a été décidé sur le canton de Vaud. Genève, c'est pas le canton de tous les blocages, mais par contre, je pense que Genève, en règle générale, je suis genevoise et fière de l'être, Genève a quand même une réputation de râleur et de Neinsager, qui est vrai. Hein. On a tendance à se faire peur, à ne pas accepter, à dire non, à devoir être convaincu, mais difficilement, etc. Et je pense que Genève, oui, c'est plus compliqué.
Au fond, oui, c'est un vrai problème, parce que finalement, on voit aujourd'hui, les gens se plaignent beaucoup des travaux dans les rues notamment, mais c'est quelque chose qui finalement, comme le CEVA, comme toutes ces constructions qu'on a mis des décennies à voter, à un moment donné, quand tout se fait d'un coup, il faut bien aller de l'avant et puis construire les projets. Donc comment on fait justement à Genève aujourd'hui pour trouver des majorités, pour soutenir des projets qui sont un peu transversaux, qui défendent un peu l'intérêt de tous? Comment on fait ça aujourd'hui?
Normalement, la meilleure manière de faire ces majorités-là, c'est de chercher la gauche et la droite et de ne pas faire gauche contre droite, parce que gauche contre droite, c'est très, très difficile aujourd'hui. Et on l'a vu tout récemment. C'est le MCG qui fait, en fait, arbitrage. Et on l'a vu avec la cacophonie autour de la CPEG. la caisse publique de l'État de Genève, sur laquelle on va voter le 19 mai, c'est réellement, là en l'occurrence, une votation, et j'ai envie de dire un vote du Parlement qu'à peu près personne ne peut comprendre. Et si on arrive à un moment donné à pouvoir discuter correctement gauche-droite et faire une politique des petits pas, c'est probablement la seule et unique manière de sortir de ces blocages.
Mais aujourd'hui, justement, le MCG est un peu en perte de vitesse. Il a perdu ses grandes locomotives. Il a encore effectivement Mauro Poggia qui réussit très bien ses années à l'exécutif, visiblement. Mais il n'a plus vraiment de personnalité aussi poignante qu'avant, aussi tranchée. Est-ce que ce climat-là, détente au niveau des partis un peu contestataires, ça va profiter à une meilleure entente des partis au niveau du centre?
Alors pour l'instant probablement pas, parce que malgré tout, en fait, la gauche n'a absolument pas besoin de discuter ni avec le PLR ni avec le PDC pour faire sa majorité. Il lui suffit d'aller chercher la majorité avec le MCG. Donc c'est un peu un oreiller de paresse. De même que si le PDC et le PLR sont d'accord avec l'UDC, s'ils vont chercher le MCG, il y a aussi une majorité, c'est aussi un oreiller de paresse. Donc j'ai tendance à penser que non, il faudrait être obligé au niveau mathématique de devoir chercher l'alliance gauche-droite pour pouvoir faire mieux avancer les projets et surtout éviter du coup qu'il y ait référendum sur référendum ou bien passer par le biais d'initiatives pour obtenir certaines choses parce que la gauche et la droite ne savent pas se parler. Donc aujourd'hui, oui, alors le MCG est clairement en perte de vitesse. Du point de vue des votes, ils votent nettement plus souvent à gauche qu'auparavant. Et puis, il faudra voir ce que ça donne tant au niveau fédéral qu'aux prochaines cantonales. Il va probablement perdre encore plus et à un moment donné, obliger les partis de gauche et de droite à s'entendre.
Béatrice Hirsch, on va parler un petit peu plus de ce qui vous concerne tout en restant dans la politique. Mais vous avez dernièrement, enfin vous êtes infirmière, je le rappelle, vous avez dernièrement publié dans le journal Le Temps toujours un plaidoyer finalement pour inciter vos collègues infirmières et infirmiers à ne pas partir, à ne pas quitter le métier. Et ça, c'était basé sur une étude, je crois, qui donnait 47% du personnel soignant dans les EMS qui était prêt à quitter le métier. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la profession?
Alors c'est une enquête qu'ont fait les syndicats. Et quand on dit personnel soignant dans les EMS, c'est pas seulement les infirmières. Et les infirmiers, c'est aussi les aides-soignantes, les assistants en soins de santé communautaires. Ce qui se passe, et c'était une des raisons de mon plaidoyer, c'est que on perd le core business de notre métier, qui est le soin relationnel. Et aujourd'hui, on a non seulement énormément d'administratifs, mais aussi énormément de contrôle et de nourriture à donner à l'administration pour satisfaire l'administration, beaucoup plus que le travail au lit du patient, du résident. En EMS, il faut savoir que c'est un métier qui est très, très difficile, on a affaire à des personnes âgées très dépendantes, à une très grande majorité de personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, de légers à majeurs, et que c'est des lieux de travail qui sont épuisants. Et puis les soins, malheureusement, si je prends par exemple, une comparaison avec les métiers du social, n'a historiquement jamais su se défendre pour prendre du temps pour débriefer, par exemple, des temps de colloque. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dans le milieu éducatif que dans le milieu soignant.
Et pourquoi ça?
C'est vraisemblablement historique. Les infirmières viennent des bonnes sœurs à la base, et c'est des métiers qui ont été bénévoles pendant très longtemps. C'est des métiers, on a longtemps dit, c'était une vocation, un don de soi, etc. Alors que les métiers de l'éducation et les métiers du social, probablement d'abord aussi avec une part beaucoup plus importante à l'époque d'hommes, ont su mieux se défendre et revendiquer du temps pour eux-mêmes, parce que pour donner du temps à l'autre, il faut en prendre pour soi. Cela étant, je pense qu'en l'occurrence, dans le social et dans l'éducatif, les gens ont raison, et que dans les soins, on devrait pouvoir obtenir un peu plus de temps de débriefing et plus de temps pour les patients. Ce qu'on aime faire, c'est le soin relationnel. Toutes les études montrent que quand on a, aux États-Unis, ils ont fait récemment une enquête, que quand on a dans les hôpitaux 5 patients au moins par infirmière, les soins étaient meilleurs que si on en avait 6, 7 ou 8. Il y avait moins de réhospitalisation quand on n'avait que 5 patients par infirmière. Et donc, de mieux doter le personnel soignant, clairement, c'est mieux soigner.
Mais justement, c'est une question qui est très actuelle, finalement, notamment avec les coûts de la santé, mais aussi dans notre société aujourd'hui. On est dans une société qui va toujours plus vite et qui demande toujours plus d'investissement des gens. Est-ce qu'on a encore le temps pour donner autant d'énergie aux gens? Est-ce qu'on est dans une société qui prend encore soin des autres, à votre avis?
Alors, le soin à l'autre, probablement que c'est difficile pour moi de dire est-ce qu'on est une société qui prenons soin de l'autre. Moi qui suis probablement dans une profession, je baigne tellement là-dedans, j'ai probablement une vision qui n'est pas très bonne, parce que moi j'ai encore vraiment l'impression qu'on prend soin de l'autre, non seulement du résident, hein, mais
Peut-être que
prend
vous avez
soin
tout à fait raison, hein.
des collaborateurs, etc. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui dans les métiers de la santé, c'est que vous parliez des coûts de la santé, et c'est très juste, mais prendre le temps aujourd'hui, c'est économiser demain. D'écouter les gens, d'écouter les patients, d'écouter les résidents aujourd'hui, c'est économiser demain, parce que sinon, demain, ils seront plus malades, moins bien, reviendront à l'hôpital, etc. Et donc, le coût global de ne pas prendre le temps aujourd'hui, il n'est pas bon. Et ça, c'était cette espèce de course effrénée. Mais c'est pas, alors là, en l'occurrence, pas seulement dans les soins. Mais il faut savoir s'arrêter aujourd'hui pour pouvoir économiser demain.
Et ça, justement, au niveau du. Je sais que la santé, et notamment les assurances maladie, c'est un des thèmes de prédilection de votre parti. Finalement, est-ce que le système actuel, la LAMAL, donc la loi sur l'assurance maladie, elle n'a pas un péché originel qui est le manque de prévention, justement? Vous parliez du fait d'investir du temps maintenant pour économiser plus tard. Est-ce qu'il n'y a pas un manque à ce niveau-là,
Alors,
aujourd'hui?
je pense que vous avez entièrement raison. Le système de santé en lui-même, en fait, c'est pas un système de santé qu'on a, c'est un système de soins. Et on va toujours soigner les gens. Le système de santé, qui serait de la prévention, de la promotion de la santé, une éducation à la santé, vraiment, aujourd'hui, on dépense, je crois, quelque chose comme 2,4% des coûts de la santé en prévention. C'est
Oui,
rien
c'est
du
rien,
tout,
rien
du
du
tout,
tout.
du tout. Donc, si on n'améliore pas la prévention, la promotion et l'éducation à la santé. Et vraiment là-dessus, j'insiste, l'éducation à la santé dès le plus jeune âge, hein, et tout au long de la scolarité. Un jeune, il est capable de sortir du cycle du collège en sachant ce qu'est un unicellulaire, une amibe, de savoir les couches, en géologie, la Terre, les couches géologiques, mais par contre, est incapable de situer de quel côté de son corps est son foie, ni sa rate. Et donc, enfin, son cœur, et ça, quand même, c'est la base. Donc, l'éducation à la santé, c'est sûr qu'il faudrait l'améliorer.
C'est un appel de votre part. Nous allons continuer cette discussion d'ici quelques minutes. Nous reprenons après une courte pause musicale.
L'interview de Grégoire Barbet.
Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent et merci à celles et ceux qui nous écoutent depuis le début. Je suis ce soir en compagnie de Béatrice Hirsch, ancienne présidente du PDC Genevois et candidate au Conseil des États pour les élections fédérales d'octobre. Béatrice Hirsch, nous discutions de la santé, de la façon dont la loi sur l'assurance maladie, pardon, était faite et du fait de sa conception ignorait finalement la prévention. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait être fait pour améliorer cette loi? Est-ce qu'au niveau fédéral, il n'y a pas aujourd'hui une vision extrêmement technocratique, extrêmement d'experts finalement qui se renvoient la balle petit à petit de toujours pour limiter finalement une vraie réforme de la LAMAL? Est-ce qu'on n'est pas obligé un jour d'aborder ce sujet?
Alors, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie. Je pense que vous avez raison, on ne pourra pas faire l'économie. On pourrait d'ailleurs l'appeler la loi sur la santé plutôt que la loi sur l'assurance maladie, qui nous permettrait d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que simplement une loi sur l'assurance maladie. Il faudra vraiment la mettre sur le tapis, cette loi, parce qu'on arrive au bout du système, dans le sens où les primes d'assurance plombent le budget. Non seulement des ménages, mais même de l'État, étant donné que l'État est quand même obligé de se substituer à une bonne partie des citoyens et des citoyennes qui n'arrivent plus à payer leurs primes d'assurance maladie. Les services de prestations complémentaires pour les personnes âgées prennent en charge un maximum de frais de la santé, c'est aussi les impôts qui les payent. Ce système où, en plus de ça, quand l'État fait une économie, l'assurance et l'assurance maladie qui payent en plus, ou l'inverse,
C'est un jeu de vase communicant, en
c'est
fait.
absolument, c'est un jeu de vase communicant, mais c'est toujours le même qui paye quand même. Et par exemple, aussi, l'ambulatoire, l'État doit payer de la même manière qu'il paye le stationnaire, parce que quand l'État fait une économie, c'est-à-dire que d'avoir ce qu'on appelle un same-day surgery, c'est-à-dire l'intervention en une journée, en fait, c'est entièrement aux frais de l'assurance maladie. L'État ne paye rien, alors que si la personne passe une nuit à l'hôpital, l'État paye 55% et la caisse 45%. C'est un système, on est arrivé au bout du système. Je pense qu'il a fonctionné un certain temps. Aujourd'hui, il faudra vraiment le revoir. Et comme on disait tout à l'heure, faire la part belle à la prévention.
Notamment, oui. Et puis, mais pourquoi alors, en fait, finalement, comment vous expliquez que tous les partis, y compris le vôtre, hein, ne proposent pas cette réforme, ne défendent pas cette grande réforme et proposent toujours des solutions un peu de, comme des sparadraps finalement.
Alors, absolument, comme des pansements sur une jambe de bois. Je suis absolument d'accord avec vous. Alors, il y a une chose qu'elle mérite d'exister, c'est l'initiative pour les freins à déficit du Parti démocrate chrétien. Je ne suis pas une complète fan de cette initiative, mais elle a le mérite d'exister.
Pourquoi vous n'êtes pas une complète fan?
Parce que je pense que ce n'est pas suffisant d'aborder juste le problème de l'assurance maladie en exigeant en fait que les cantons mettent un frein au déficit de l'assurance quand il y a des coûts qui sont trop grands, en fait, quand on n'a pas réussi à contenir les coûts. Ce n'est pas suffisant. La santé, ce n'est pas juste une histoire de financement. Mais par contre, cette initiative, elle exige qu'on mette autour de la table tous les acteurs et les actrices de la santé, c'est-à-dire les patients, les prestataires de soins, les assureurs, les politiques, et qu'à ce moment-là, et c'est seulement à ce moment-là, qu'on pourra probablement élaborer des solutions pour cette loi sur l'assurance maladie, comme vous l'avez dit, cette loi sur la santé, probablement.
Béatrice Hirsch, j'ai pris la peine de lire votre site internet, et vous citez André Béchler, qui écrit « Il est beaucoup plus difficile d'être cohérent avec soi-même que d'adhérer à un parti ». Pourquoi cette citation?
C'est en fait une citation. Je crois que j'aime bien l'idée que vous ayez été voir mon site. J'encourage pas tout le monde à aller voir mon site parce qu'il est un peu en réflexion. Je l'ai un peu laissé aller ces dernières années. Mais c'est une citation que j'ai choisie au tout début de ma carrière politique parce que en fait adhérer à un parti et épouser une ligne de parti, c'est assez simple. D'être cohérent avec soi-même, c'est beaucoup plus compliqué. Quand j'ai présidé le Parti démocrate chrétien, à l'époque, j'avais été en course avec une autre personne pour devenir présidente. Et,
L'ambiance n'était pas top. Hein.
Voilà,
on peut dire ça comme ça.
La course à présidence, c'était quand même assez tendu. Et mes enfants m'avaient demandé, j'ai deux garçons, et mes enfants qui étaient adolescents à l'époque m'avaient demandé « qu'est-ce qui est pour toi le plus important ?» pour gagner cette élection. Et j'avais dit à mes enfants, le plus important pour moi, c'est le miroir dans lequel je me regarde le matin. Et je ne veux rien avoir fait ou dit qui ne soit pas cohérent avec moi-même ou qui ne corresponde pas à ce que je suis et ce que je crois profondément. Et c'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas toujours très gentil avec soi-même. Et de temps en temps, d'être réellement, de se poser la question, que puis-je faire pour être cohérente avec moi-même, authentique.
Avant d'être cohérent avec votre parti, donc.
Avant d'être cohérent avec mon parti, c'est plus difficile.
Et est-ce que ça, c'est possible, justement, dans un parti, d'être un peu, d'avoir cette qualité, d'avoir le franc-parler, d'être capable de dire, non, mais moi, là, je ne suis pas d'accord, comme vous disiez avant, je ne suis pas totalement fan de l'initiative pour le franc et déficit pour l'assurance maladie. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça ne nous attire pas des inimitiés? Est-ce qu'on peut, finalement, obtenir... des postes, finalement, obtenir l'assentiment de son parti, tout en étant quelqu'un un peu un électron libre.
Alors, je ne pense pas être un électron libre, parce que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je suis très loyale à mon parti. Par contre, je suis clairement une politicienne atypique. Et je pense que j'ai eu des inimitiés dans mon parti à cause de ça, parce que, aussi, les gens ne peuvent pas... J'ai envie de dire, je suis pas corruptible. Et les gens, je dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les pense. Je me bats pour mes idées qui sont extrêmement proches du Parti démocrate chrétien. J'y suis loyale, mais je reste moi-même. Et je ne défendrai pas quelque chose auquel je ne crois pas du tout. Je me retirerai, je laisserai d'autres se mettre en avant, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Aujourd'hui, je pense, et je pense que les dernières crises politiques à Genève ont montré que la population avait envie de gens authentiques, avait envie d'élus politiques qui soient sincères, honnêtes, authentiques, même si atypique. Et aujourd'hui, d'être candidate pour le Parti démocrate chrétien, pour le Conseil des États, c'est une vraie fierté pour moi, parce que non, j'ai pas forcément toujours pensé que je pouvais y arriver, parce que c'est vrai que, un peu atypique, beaucoup atypique, c'est pas toujours facile, surtout dans un parti comme le Parti démocrate chrétien.
Mais justement, votre profil, vous avez pris probablement un peu d'assurance ces dernières années aussi, on peut le dire, je crois, et finalement, aujourd'hui, vous en arrivez à être candidate au Conseil des États. Est-ce que c'est un peu un rêve? Est-ce que pour vous, siéger éventuellement à la Chambre haute, ce serait un peu un accomplissement personnel?
Alors, un accomplissement personnel, je ne sais pas, mais un rêve, oui, parce que c'est vraiment le législatif que j'aime et le Conseil des États encore plus.
Plus que l'exécutif, donc.
Vous êtes plus une femme de législatif. Je suis dans un exécutif de petite commune. Mm-hmm. J'aime beaucoup le travail qu'on fait avec mes collègues, mais à la base, j'aime le travail législatif. J'aime aller chercher la majorité. J'aime les choses qui avancent pas forcément aussi rapidement que ça, mais vraiment.
Qu'est-ce qui différencie ces deux fonctions pour nos auditeurs?
Un travail d'équipe, un travail de consensus, un travail plus lent, un travail de un travail de dossier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et puis, mais je peux pas dire que c'est simplement la réalisation d'un rêve. Oui, j'ai pris de l'assurance. Je pense qu'il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidé ces dernières années. D'abord, j'ai eu un accident de la circulation en 2016. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, j'avais quitté le Grand Conseil, qui a quand même bien remis l'église au milieu du village, de savoir ce qui était important et pas. Le chirurgien m'avait dit à un moment donné qu'il allait falloir choisir entre mon bras et la politique, parce que je n'allais pas pouvoir continuer à faire ça longtemps. Et l'autre chose qui était le fait de me dire, si demain je disparais de la scène politique, c'est un coup pour mon ego, c'est embêtant, mais je ne suis pas morte pour autant, et j'existe, j'ai une vie familiale, j'ai une vie professionnelle, et donc je ne vais pas m'écraser si simplement je disparais politiquement. Et ça donne une bonne force, parce qu'en fait, ça permet, les gens peuvent attaquer politiquement, mais si demain on m'attaque trop fort, et si j'existe plus politiquement, j'ai encore ma vie à côté. Et ça, ça donne une vraie force.
Mais finalement, c'est un peu comme ça qu'est pensé nos systèmes aussi. On est censé servir et disparaître.
On est censé servir et disparaître, mais malgré tout, il y en a qui font de la politique professionnellement. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile de disparaître.
Tout à fait. Et parfois, justement, cette notion de servir et disparaître est un peu dévoyée. Et une dernière question, avant de terminer l'émission. Finalement, quel est votre avis sur la grève des femmes, le 14 juin ?
Alors, sur la grève en tant que telle, d'abord, oui. j'aime pas le mot grève, parce que malgré tout, je comprends très très bien les aléas juridiques qui dit qu'à la base, on fait une grève pour une revendication vis-à-vis de son employeur. c'est pas le cas. En fait, il y a des employeurs, qu'on soit un bon ou un mauvais employeur, j'ai envie de dire, les gens veulent faire la grève. Je suis extrêmement pour cette manifestation. J'aimerais vraiment que les hommes et les femmes descendent dans la rue pour demander l'égalité. L'égalité salariale pour les femmes, Mais l'égalité tout court, le congé paternité pour permettre aux pères de s'occuper de leurs enfants, enfin j'entends, on est au 21e siècle, il est peut-être grand temps de le donner. Il faut aussi avouer que j'ai deux adolescents qui doivent servir leur patrie, donc à la maison, je n'ai pas tellement le droit toujours de parler d'égalité, tant que, comme dit mon fils aîné, nous avons une constitution fédérale particulièrement inégalitaire sur l'obligation de servir, sur ce point-là. Mais la manifestation pour l'égalité, les revendications des femmes, oui, alors j'y crois très très fort et j'y serai, j'ai pris un jour de congé pour ça. Les revendications sont légitimes et je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout. Je pense qu'il y a eu énormément de mieux ces derniers mois et probablement ces deux dernières années. On n'est pas encore arrivé, mais j'aime pas tellement ce mot de grève.
D'accord. Eh ben, au moins les mots sont clairs. Et justement, sur cette mobilisation des femmes, la ville de Genève a décidé d'accorder un congé aux femmes et pas aux hommes. Et le Conseil d'État, donc le canton, a décidé de ne rien faire. Quel est votre avis sur cette différence ? Est-ce que vous êtes d'accord avec la ville de Genève ou pas ?
Alors non, je ne suis pas d'accord avec la ville de Genève, même si j'aime beaucoup l'idée de faire une politique volontariste par rapport à cette manifestation. Alors pour moi, volontariste, donner congé aux hommes et aux femmes. On ne peut pas donner congé juste aux femmes. Ça, c'est vraiment pas possible. On ne peut pas combattre l'inégalité par d'autres inégalités. Et ça, vraiment,
même si c'est une inégalité d'une fois, d'un jour, pour une cause qui, finalement, transcende de loin
mais
cette inégalité-là.
Mais pourquoi pas, en fait, demander qui aimerait manifester ?
Mais est-ce qu'il est nécessaire de manifester pour pouvoir faire grève, si on parle d'une grève ? Si on parle d'une absence, simplement de ne pas aller au travail pour manifester son mécontentement envers ce manque d'application de la loi sur l'égalité.
Alors, à titre personnel, je trouve que dans ce cas-là, l'idée, c'est quand même d'aller manifester, d'aller dire ce qu'on pense, pas juste de ne pas aller travailler, pas juste de demander aux hommes de faire ce travail-là. Donc, non, je trouve dommage. Que le canton fasse rien du tout, c'est un peu dommage, parce qu'en plus de ça, la manifestation, elle est relativement tard. On aurait pu permettre des horaires adaptés, mais j'aimerais surtout savoir combien de personnes ont envie, parce qu'après, on peut aussi estimer qu'il suffit de demander au service de faire un effort concernant ces heures.
Très bien. Eh bien, merci d'être venue, Béatrice Hirsch, et on vous souhaite bonne chance pour votre candidature.
Merci beaucoup, Grégoire Barbet, c'est un moment très sympathique. Merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.
Et on reprend maintenant avec le top horaire, il est 20h, je laisse la parole à Josh.
Vous êtes branchés sur Radio Tonique.
Et il est pile 20h.
Seven 80s avec Eric, le son pop, rock, funk des années 70 et 80.